Léa Salamé, votre invité ce matin est un
une tête ronde.
Ouais.
Non, mais oui. C'était quoi la tête carrée de
C'était un hommage à la période cubiste de Picasso pour l'ouverture de la Grande Expo. Donc, votre invité ce matin, Léa, est un politologue américain, professeur à Harvard, auteur du livre Le peuple contre la démocratie. C'est aux éditions de l'Observatoire.
Bonjour Yasha Monk, merci d'être avec nous. Vous êtes la sensation de cette rentrée avec votre essai où vous analysez la montée des populismes et parallèlement la fébrilité, l'apathie, l'atonie des démocraties libérales. Ceci dit, ce matin en Suède, alors que beaucoup annonçaient l'extrême droite gagnant, l'extrême droite n'a pas gagné, elle n'arrive que troisième. Est-ce que c'est un contre-exemple, la Suède? Est-ce qu'il reste ainsi des poches de résistance?
Oui et non. Alors certainement, si on croit que les populistes maintenant vont gagner chaque élection dans chaque pays, la Suède serait un contre-exemple. Mais en fait, le parti d'extrême droite qui était issu d'une partie d'un mouvement néo-nazi il y a 20 ans, est encore plus fort qu'il y a 4 ans. Alors, il est augmenté. Comme on avait déjà aussi en France, c'est pas que Marine Le Pen a gagné dans le deuxième tour de la présidentielle, mais avait un taux plus ou moins le double de ceux qu'avait emporté son père 15 ans avant.
Pourquoi la démocratie ne fait plus rêver à Chamonc? Pourquoi le dynamisme, la puissance, le romantisme même semble être passé de l'autre côté, du côté des populistes, du côté des nationalismes?
Peut-être en fait la période dans laquelle la démocratie était complètement stable, la période dans laquelle la plupart des citoyens étaient convaincus de la démocratie était un peu exceptionnelle. En France par exemple, c'était une période des 30 glorieuses, dans laquelle la plupart des citoyens disaient que vraiment, je suis beaucoup plus riche que dans mon enfance et mes enfants vont être encore beaucoup plus riches. Et deuxièmement, c'était un moment avec des sociétés assez homogènes. Et toutes ces deux choses ont changé. Aujourd'hui, des gens de ma génération, je suis né en 1982, n'ont pas l'impression qu'on fait une vie tellement mieux que dans notre enfance. Et évidemment, il y a un grand changement culturel, la portée d'une société multiethnique avec laquelle on est encore en train de se connaître.
Voilà, vous osez dire le mot d'immigration, vous dites l'immigration est un problème, il faut le voir en face. Vous dites il y a un malaise identitaire, c'est aussi ça qui explique la montée des populismes. C'est la gauche longtemps ou les démocrates aux États-Unis n'ont pas voulu le voir, ça, non?
Je crois, premièrement, oui, qu'il faut reconnaître que c'est un expériment historique unique. On n'a pas d'exemple des sociétés qui étaient fondées de manière monoethnique, monoculturelle, qui sont devenues multiethniques. Et alors, ça ne devrait pas nous surprendre que ce n'est pas facile à faire. Et à la fin, je ne sais pas si c'est un problème, mais on doit changer d'idée. Alors, pour moi, il y a des nationalistes de droite qui veulent exclure les gens aux bases de leur identité, aux bases de leur couleur de leur peau, etc. Et après ça, parfois, il y a une gauche qui dit qu'il faut surpasser le nationalisme, devenir cosmopolite. Et ça, pour moi, est une erreur. Parce qu'on a vu pendant les derniers 20 ans que le nationalisme garde une force extrêmement importante. Et alors, pour
Ce que vous proposez, en gros, vous rejetez à la fois les nationalismes de droite et à la fois le cosmopolitisme de gauche, et vous proposez ce que vous appelez le patriotisme inclusif. C'est quoi la différence avec le nationalisme?
Il y a deux différences importantes. La première, c'est que c'est inclusif, c'est-à-dire qu'évidemment, on reconnaît tous les gens qui vivent dans notre pays autant que notre co-citoyen. On ne fait pas de sanctions sur la base de l'identité, de l'origine, etc. Et le deuxième, c'est que sur le plan international, les nationalistes inclusifs peuvent dire « moi, je peux me battre pour les intérêts de mon pays et en même temps respecter les intérêts d'autres pays. » Parce que je vois qu'il y a des win-win. Il y a des traités, par exemple, où la France gagne, mais d'autres pays gagnent aussi. Le problème de Trump, ça n'est pas qu'il se batte pour les intérêts des États-Unis, c'est normal, ça le fait. Obama le faisait aussi, mais qu'il ne pense pas qu'il y a des situations win-win. Il croit que pour que les États-Unis gagnent, d'autres pays doivent perdre. Ça, c'est une notion du nationalisme que j'aime pas.
Je vais vous poser des questions sur Trump, mais comment vous voulez faire du patriotisme inclusif dans le cadre de l'Union européenne? Dans ces cas-là, c'est la mort de l'Union européenne si chacun reparle de son pays.
Non, c'est le contraire. Si on va dire qu'il faut être soit français, soit européen, les gens vont être français et l'Europe va mourir. On doit reconnaître que c'est possible d'être à la fois français et européen. Et à ce point-là, peut-être l'Europe va avoir un futur.
Votre livre propose un tour du monde des populistes, d'Erdogan à Orban en passant par Salvini et Trump. Vous mettez Trump dans la même catégorie que Erdogan, que Salvini. Vous avez vraiment l'impression qu'il est un autoritaire, un autocrate comme les autres? Est-ce que c'est pas bizarre de mettre Trump là?
Non, pas du tout. Pour moi, la nature du populisme, c'est les gens qui disent « moi seul, je représente le peuple ». et tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi ne sont pas légitimes. On voit ça exactement de la même manière dans la rhétorique de Salvini, d'Erdogan, de Orban en Hongrie, même des populistes gauchistes comme Chavez en Venezuela et tout à fait aussi Donald Trump. Regardons la manière dans laquelle il a nommé des juges des ennemis du peuple, l'opposition démocrate des traîtres, oui. La média libre comme des personnes qui doivent être régulées et même abordées. Alors ça, pour moi, c'est clairement dans la même ligne de ces autres populistes.
C'est vrai, mais contrairement à la Turquie d'Erdogan, par exemple, les médias sont libres aux États-Unis, ils restent libres aux États-Unis et les opposants politiques ne sont pas mis en prison.
Bah, premièrement, les médias restaient aussi libres en Turquie quand Erdogan était en pouvoir pour 2 ans. Ça prend beaucoup de temps. Et deuxièmement, je n'ai pas dit que Trump va avoir nécessairement le même effet. Évidemment, les États-Unis sont une démocratie plus vieille, avec une société plus engagée, plus riche. Alors, on ne sait pas encore quel effet va avoir le gouvernement de Trump. Mais ce qui est clair, c'est que ses instincts, peut-être même ses intentions, sont autoritaires.
Comment vous expliquez que 2 ans après son élection, il reste populaire, Donald Trump, dans votre pays ?
Bah, il ne reste pas particulièrement populaire. C'est vrai que peut-être les Français sont un peu plus durs avec leur président que les Américains. Maintenant, Trump a un taux de popularité de plus ou moins 42%. Macron, de ce que je comprends, à 31%, c'est peut-être un peu dur. Mais certainement, Trump est moins populaire que presque tous les présidents qui étaient là avant lui.
Le fait que Woodward sorte un livre à charge contre Trump, le fait que le New York Times publie un témoignage anonyme de quelqu'un qui travaille à la Maison Blanche, ça sert à quoi ? Est-ce que c'est pas contre-productif ? Parce qu'au fond, ça conforte les anti-Trump en disant il est vraiment horrible, mais est-ce qu'un seul pro-Trump change d'avis avec ce genre de témoignage-là ?
Bah, je crois que le op-ed qui a été publié au New York Times a des problèmes. Je ne suis pas d'accord ni avec le texte, ni avec les actions de l'auteur. Mais peut-être c'est plus simple. Peut-être les médias font une chose nouvelle, historiquement unique, parce que la nature de la présidence de Donald Trump est historiquement unique. On n'a pas eu un président qui était contre les institutions dans la manière de Donald Trump. Et il faut toujours faire la distinction entre des politiques qu'on n'aime pas et les attaques à la démocratie. En Hongrie, par exemple, mon problème avec Viktor Orban n'est pas le traitement des réfugiés, c'est le fait qu'il est contre la presse libre et contre l'opposition libre.
Yasha Monkamo, un mot sur Emmanuel Macron pour finir. Il s'érige en anti-Orban en Europe. Il se pose comme le dernier rempart face à la montée des populismes. Mais la politique qu'il propose, les mots qu'il utilise, sont-ils les bons pour contrer les populistes ?
Bah, je ne sais pas s'ils sont les bons. Je ne suis pas français, je ne vais pas passer de jugement précis sur ces politiques. Mais ce qui est clair, c'est qu'au moins il est clair sur le danger des populistes. Et pour moi, le futur de France va se décider dans 3 ans, parce qu'on doit avoir de l'alternance démocratique dans des pays démocratiques. Et pour le moment, on ne voit pas une opposition qui a des valeurs démocratiques qui est fort.
Vous dites ?
Oui, il n'y a pas quand même beaucoup de partis qui sont modérés, qui sont démocratiques, qui sont en place pour remplacer Macron dans quelques ans. Et ça me fait un peu de peur pour le futur de la France.
Merci à vous, Yasha Monk. Le peuple contre la démocratie aux éditions de l'Observatoire. Très belle journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci Léa.